Radio Okapi.
En direct de Kinshasa, il est très précisément 18h. Voici un nouveau journal sur Radio Okapi. Réaction à Kinshasa du modérateur adjoint du syndicat de l'administration publique à l'augmentation des 30% des salaires des bases des agents de l'État en ce mois d'avril. François Chimanga salue le geste du gouvernement central annoncé par le ministre de la fonction publique. Fermeture aujourd'hui des stations-service de Lubumbashi. Certains pétroliers affirment que la nouvelle structure de prix ne leur permet pas de renouveler les stocks. Certains revendeurs fixent jusqu'à 5000 francs congolais le prix du litre. Notre invité, c'est le conseiller spécial chargé des questions politiques de Moïse Katumbi-Tchapwe. Salomo Idi Kalonda finance les travaux de réhabilitation du tronçon routier qui va de Kindu à Kibombo. Il déplore cependant les mauvaises conditions de vie des habitants de la province. Voilà pour les titres. Madame, messieurs, bonsoir, soyez les bienvenus. Au micro, Pascal Masirika, mise en onde de Jean-Claude Nsiala. Réaction à Kinshasa à l'augmentation des 30% des salaires de base des agents de l'État à partir de ce mois d'avril. Le modérateur adjoint du syndicat de l'administration publique salue le geste du gouvernement central annoncé par le ministre de la fonction publique. François Chimanga a été joint par Francis Mouya.
Je crois que nous l'accueillons avec positivité. C'est quelque chose qui relève des pourparlers qui se sont passés entre le gouvernement.
Il y avait eu un certain nombre de recommandations à part celle-ci. Est-ce que les autres aussi ont été prises en compte?
Oui, la réduction de l'hyper a été prise en compte dès le début de l'année. Il a été promis qu'au mois d'avril, il y aura augmentation. Bon, il serait question d'augmentation de 45% au mois d'avril, mais nous comprenons que le gouvernement a aussi d'autres choses. Nous voyons comment est-ce que ça peut aller. On nous parle de 30%. J'ai entendu, selon aussi les dispositions des protocoles d'accord de cette commission paritaire, au mois de juillet, il y aura aussi une autre augmentation. Jusqu'à présent, nous constatons que le gouvernement a la bonne foi. Nous estimons que nous allons voir comment est-ce que ça va évoluer.
Pour rappel, cette augmentation du salaire fait suite à la signature de l'avenant au protocole d'accord de Bibwa entre le gouvernement central et l'intersyndicale de l'administration publique sur les salaires. Fermeture ce mercredi des stations-service de Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga. Certains pétroliers affirment que la nouvelle structure des prix publiée récemment par le gouvernement ne leur permet pas de renouveler les stocks. Entre-temps, certains revendeurs fixent jusqu'à 5000 francs congolais le prix du litre. Radio Okapi Lubumbashi, Jean Gandou.
Depuis ce mercredi matin, les automobilistes ont du mal à s'acheter du carburant dans les différentes stations-service de Lubumbashi. Pour les pétroliers, le prix de 2695 francs congolais le litre d'essence fixé par le gouvernement dans la zone sud ne reflète pas la réalité de prix qui sont d'application sur les marchés internationaux. Ils préconisent ainsi qu'un litre de carburant soit fixé à 3600 francs congolais pour leur permettre de se retrouver notamment dans leur trésorerie. Ils rappellent aussi que le gouvernement qui a pris l'option de subventionner les produits pétroliers s'exécute à peine. Pour eux, l'État congolais ne paye le manque à gagner qu'aux entreprises multinationales. De ce fait, il leur est difficile de passer de nouvelles commandes quand on sait que la zone sud consomme entre 75 et 100 000 mètres cubes le mois. Sur le terrain, les revendeurs profitent pour augmenter le prix. Il y en a qui vendent le prix d'essence à 4 500, voire 5 000 francs congolais. Les chauffeurs de taxis et taxibus qui s'approvisionnent auprès d'eux ont également revu les prix de la course. Face à cette situation, certaines personnes ont rallié le centre-ville de Lubumbashi à pied. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Okapi.
Et puis après plus de 7 ans, les habitants des territoires de Popokabaka et de Kasongolunda saluent le passage lundi dernier d'un gros véhicule sur la route qui relie ces deux entités de la province du Kwango. C'est après la réhabilitation du pont Loaï sur financement du député national Passisa Pamba, élu du coin. L'administrateur du territoire affirme que ce véhicule a déposé du matériel destiné à un réseau cellulaire. À Bandundouville, Irène Mboma.
Dans un entretien téléphonique, l'administrateur du territoire de Popokabaka a déclaré que cela fait plus de 7 ans qu'aucun véhicule n'est arrivé à Popokabaka cité, passant par la route principale qui relie ce territoire à celui de Kasongolunda. Cela à cause de l'écroulement depuis plusieurs années du pont Loi situé sur cette route et qui avait totalement coupé le trafic. Mais grâce à la reconstruction de ce pont, un gros véhicule en partance de Kinshasa pour cette cité vient de passer pour la toute première fois sur cette route. Selon Fidèle Ipama, le passage de ces véhicules a constitué un grand événement erré pour la population de plusieurs villages de ce coin, surtout pour les enfants qui n'ont jamais vu un véhicule.
Un gros véhicule qui est de Kinshasa pour déposer des matériels pour les antennes d'Orange. C'est un durant qu'aucun gros véhicule ne passait, même les jeeps, parce qu'il n'y avait pas de passage. C'est le premier véhicule avec un tonnage de 20 qui est passé pour la première fois. Popokabaka dans l'allégresse parce que le pont est réhabilité. Il y a des enfants de 7 ans qui ont vu pour la première fois un gros véhicule de ce côté-là. Donc, toute la région de Yonzo est dans l'allégresse. Même les gens de Kasongolunda, ils sont dans la joie parce que les véhicules vont passer de Popokabaka juste là.
Il y a lieu de signaler que dans un bref délai, interviendra l'inauguration du pont Loi. Irène Mboma, Bandundouville, Radio Okapi.
On en vient maintenant à la politique. Tractation à Kinshasa autour de l'examen de la proposition de loi électorale. Les 13 parlementaires et personnalités politiques ont proposé hier mardi au bureau de l'Assemblée nationale une méthodologie plus consensuelle. L'examen et le débat général proprement dit devaient commencer aujourd'hui. Pendant 7 ans, la délégation mixte Senco-SCC a rencontré également hier le bureau de la Chambre basse du Parlement pour faire le point de leur tournée auprès des différents acteurs au processus électoral en RDC. Les comptes rendus de Michel Kefindangoy.
Une semaine environ après avoir conféré avec le président de l'Assemblée nationale, le révérend Eric Senga de l'Église du Christ au Congo SCC et Mgr Donatien Chollet de la Conférence épiscopale nationale du Congo Senco sont revenus faire le point de leur discussion avec Christophe Mbosso. Mgr Donatien Chollet.
Il faut un minimum de consensus pour des élections inclusives, crédibles et apaisées. Nous avons été édifiés de l'ouverture par rapport à la loi électorale. Nous créons les conditions de faisabilité de ce consensus.
De son côté, le G13 a soutenu l'option de recueillir les amendements des groupes parlementaires afin de dégager et renforcer le consensus politique autour de la loi électorale. Daniel Mukoko Samba.
La proposition de loi déposée par le G13 est elle-même le produit d'un large consensus. Parce que le G13 avait rencontré toutes les couches sociales. Mais aujourd'hui, le texte est à l'Assemblée. C'est au sein de l'Assemblée que ce débat va avoir lieu.
Dans le même ordre d'idées, le G13 a salué la proposition prise par le président de l'Assemblée nationale qui a défini la méthodologie d'un débat apaisé et éclairé pouvant permettre aux Congolais de comprendre les grandes innovations proposées par cette loi électorale.
On reste au palais du peuple à Kinshasa où, après les émissaires de l'Union africaine et de l'Union européenne, le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mboso Kodiapuanga, a échangé hier mardi avec les ambassadeurs de la Belgique, de la Chine, de la France et des États-Unis d'Amérique. Au menu, l'intensification de la diplomatie parlementaire autour de l'examen de la proposition de loi électorale. Qu'est-ce qui en ressort? La réponse avec vous, Michel Kefindangoy.
Avec l'ambassadeur des États-Unis, les échanges ont tourné autour du partenariat privilégié entre la RDC et le pays de Joe Biden, mais aussi du processus électoral. Mike Hammer.
La loi électorale, c'est clé pour faire avancer les élections inclusives, transparentes, justes et dans le délai constitutionnel, sans glissement. Et les États-Unis est prêt à continuer à soutenir la démocratie congolaise, qu'il y aura des observateurs internationaux comme le président Tshisekedi a demandé.
Sur le même sujet, Christophe Mboso a aussi conféré lundi avec l'ambassadeur de la Chine qui s'abstient de s'ingérer dans les affaires intérieures de la RDC.
D'abord, le processus électoral, c'est une affaire congolaise. Bien que nous respectons strictement le principe de non-ingérence, tout en respectueux à la souveraineté de l'État congolais, nous sommes prêts à accompagner le peuple et l'État congolais dans ce processus électoral et de créer des conditions favorables à la paix, à la stabilité pour que ce processus électoral se déroule dans des conditions paisibles et consensuelles au lieu de créer de nouvelles crises.
Les ambassadeurs de la Belgique et de la France ont aussi plaidé pour une loi électorale consensuelle qui permettra à la RDC d'avoir des élections meilleures que celles de 2018 et promettent d'accompagner ce processus.
Nous voilà maintenant en Ituri où parmi les déplacés qui affluent à Komanda Centre, il y a eu 9 morts en l'espace de 5 jours. Selon la société civile locale, c'est suite aux mauvaises conditions de vie de ses habitants qui fuient les rebelles Ougandais l'ADF. Et pour éviter le pire, cette structure citoyenne appelle à une intervention rapide des autorités et des humanitaires. À Bounia, Martial Kizabiamungu.
Ces familles de déplacés estimées par la société civile à 1 000 000 vivant à Komanda Centre proviennent des villages Mugamba, Bamande, Kawanza, Kandoui, Bandiboli, Vokutu et Manguso sur l'axe Komanda Mambasa. Elles se sont installées dans les cours des écoles, les églises, les maisons abandonnées et d'autres dans des familles d'accueil. Selon la société civile locale, ces vulnérables manquent de quoi manger et passent la nuit à la belle étoile exposée aux intempéries. Cette structure citoyenne dit avoir dénombré du samedi dernier à ce jour 9 morts parmi ses déplacés, une conséquence de leurs conditions de vie précaires. Au nombre des morts, 4 enfants et 2 personnes de troisième âge. Afin de freiner cette mortalité, la société civile plaide pour une assistance d'urgence en nourriture et en abri à ces personnes dépourvues de tout. L'administrateur du territoire du Rumu, conscient de la situation, dit avoir déjà fait les rapports au gouverneur de province pour une intervention rapide et pour créer les conditions d'un retour volontaire de ces déplacés dans leur milieu d'origine. Bounia, Martial Kizabiamungu, Radio Okapi.
Et dans le Haut-Ouélé, un calme relatif est revenu dans les agglomérations, dans les groupements de Logololia, territoire de Faradje, et Kaliko Omi, territoire d'Arou, dans la province voisine de l'Ituri. Les accrochages survenus dimanche et lundi dernier ont fait 7 morts, d'importants dégâts matériels et le déplacement de beaucoup d'habitants. Ces accrochages font suite à un conflit de limites territoriales entre les habitants de ces deux entités. À Kisangani, Jacques Mukonkole signe le reportage.
Des 7 personnes tuées, 6 appartiennent à la chefferie Kaliko Omi dans le territoire d'Arou. Leurs corps ont été retirés hier après des négociations entre les autorités territoriales de deux entités. Edmond Lokakao, administrateur du territoire de Faradje.
Depuis hier, la délégation de Arou était venue. Il y a eu des négociations. Son Excellence Christophe Bassianenanga avait mis tous les moyens pour que le corps soit transféré dignement. Ce qui a été fait, il y a maintenant du calme. Nous sommes en train d'observer.
Après cet épisode sanglant, l'heure est actuellement à la sensibilisation des populations pour le mieux vivre ensemble. L'administrateur du territoire des Faradje aimerait que les experts des deux entités ainsi que ceux de l'Institut géographique du Congo descendent sur les lieux pour mettre un terme définitivement à ce conflit. Et c'est aussi le souhait du vice-président de l'Assemblée provinciale du Haut-Ouélé, Jean-Faustin Tassilé.
Vouloir faire la paix revient que les gens continuent à vivre en frères et qu'ils ne doivent pas s'être déchirés pour que ceux des limites qui sont connus déjà dans la loi organique de 2015 et que ça ne doit pas aujourd'hui poser un problème entre ces deux peuples.
En attendant, l'AT de Faradje annonce une rencontre imminente dans son entité entre les autorités des deux territoires en vue de sensibiliser la population sur la nécessité de vivre en harmonie entre communautés. Jacques Mukonkole, Kisangani, Radio Okapi.
On enchaîne avec Mbandaka où a été ramené hier après-midi la dépouille mortelle de Freddy Bomané, l'étudiant abattu le 12 avril dernier lors des échauffourées avec la police nationale. Les autorités provinciales l'ont remis aux parents pour inhumation dans le territoire de Bongandanga, province de la Mongala. Entre-temps, le procès en procédure de flagrance du policier meurtrier se poursuit normalement à l'auditorat militaire de Mbandaka. C'est une correspondance de Paul-Richard Malengela.
C'est sous le coup de 15h45 local que le corps de l'étudiant Freddy Bomamé Bombo a quitté la morgue du CHU Mbandaka. C'était en présence des autorités provinciales, dont le gouverneur Bouboloko, qui a pris en charge les frais funéraires et de transport du corps. Voilà pourquoi le père du défunt, Henri Abel Mbombo, n'a pas caché sa gratitude.
Pour
le rapatriement de ce corps au village natal, vraiment je rends grâce à Dieu et je remercie toutes les autorités provinciales pour leur main forte. Merci à vous, monsieur le gouverneur, pour les efforts consenti afin que la dépouille de mon fils quitte cette ville jusqu'à son propre village. À propos de l'établissement d'appartenance de son fils, Papa Mbombo a affirmé qu'il fréquentait l'ISTEM Mbandaka. Je l'avais envoyé étudier à l'ISTEM, de même que j'ai étudié à l'ISTEM chez nous. J'ai fait un effort pour que mon fils étudie à l'ISTEM Mbandaka. D'abord en G1 et cette année il était en G2. Le retrait du corps a eu lieu en toute discrétion, tel que convenu avec la famille, afin d'éviter une nouvelle escalade avec les des étudiants. Il a été embarqué dans une pirogue motorisée jusqu'au groupement Bosso-Moudanda où il sera inhumé à son arrivée prévue le mercredi soir. Entre-temps, le tribunal militaire de garnison de Mbandaka, qui a ouvert un procès en flagrance au lendemain du meurtre et pris l'affaire en délibéré, va plutôt rendre son verdict ce jeudi. Mbandaka, Porsche Maningue, la radio Okapi.
Actualité internationale.
Un supplétif russe de l'armée malienne a été tué ce mercredi après-midi à Ombori, localité située au centre du pays, après que son véhicule a explosé sur une mine improvisée. C'est ce qu'indiquent de nombreuses sources citées par l'AFP. Ces sources évoquent également une riposte de l'armée. Le ministre nigérien de la communication, Mahamadou Zada, a été écroué à la prison de Kolo, entendu hier soir par un juge d'instruction du pôle économique et financier. Il a été placé sous mandat de dépôt pour détournement d'argent avant son entrée au gouvernement. Au 56e jour de l'invasion russe, l'Ukraine a reçu des avions de chasse pour l'aider à contrer l'offensive russe dans l'est du pays où les derniers combattants ukrainiens retranchés à Mariupol ont lancé un appel désespéré à la communauté internationale pour être secourus.
L'invité.
Notre invité, c'est le conseiller spécial en charge des questions politiques de Moïse Katumbi-Tchapoué. Salomo Idi Kalonda finance la réhabilitation du tronçon routier qui va de Kindu à Kibombo. Il déplore également les mauvaises conditions de vie des habitants de la province. Il s'entretient à Kindu avec Florence Kizalunga.
Monsieur Salomo Idi Kalonda, bonjour.
Bonjour.
Fin de votre séjour au maniement, peut-on savoir le bilan de votre mission?
Oui, merci beaucoup. Les bilans, peut-être trop dire, mais le constat est très amer par rapport à la situation socio-économique de la population du Maniema. Je savais que le Maniema était enclavé, mais je ne pouvais pas m'imaginer que les denrées des premières nécessités étaient aussi coûteux au Maniema. Les trains n'arrivent pas, et donc même les sucres, les sels, c'est vraiment pénible pour la population du Maniema. Ne parlons pas de produits comme les riz qui est produit ici sur place au Maniema, le manioc, tout ça, parce qu'il n'y a pas de voie d'évacuation, parce qu'il n'y a pas de route de desserte agricole. Et donc à Kindu, les gens paient cher le manger, c'est inconcevable. Dans ces pays où il y a parfois, même au Maniema, des saisons de pluie. Mais malheureusement, les gens ne sont plus encouragés d'aller au champ du fait qu'il n'y a pas de route de desserte agricole. Voilà pourquoi moi-même, en tant que fils du pays, je m'étais donné l'obligation de donner au moins un exemple. Et c'est cet exemple, c'est la route Kindu-Kibombo, que j'ai fait un partenariat avec l'Office des routes et le gouvernorat du Maniema pour effectivement essayer tant soit peu d'aller la misère de cette population.
Vous vous êtes personnellement rendu sur les lieux des travaux. Comment qualifiez-vous ces travaux qui sont exécutés par Office des routes?
Oui, il y a comme dans tout projet, il y a du positif et du négatif. Je vais commencer par les négatifs parce que c'est ça que la population est en train de déplorer. C'est la lenteur d'exécution des travaux de cette route. Vous savez, une population qui n'a pas vu des engins passer sur cette route pour plus de 50 ans, à eux, ils voudraient voir cette route vite réhabilitée et vite utilisée. Alors que il y a des aléas, il y a des problèmes techniques et parfois l'exécution qui n'est pas très finie. Ça veut dire il y a des endroits où ils ont déjà travaillé et que les bourbiers commence. Et là, c'est un problème des matériaux, parce que vous imaginez, il y a aussi un problème. Dans d'autres provinces, moi, heureusement, j'ai travaillé au Katanga. Quand on faisait des routes, on n'achetait pas la terre, on n'achetait pas la latérite. Les carrières pour les routes d'intérêt général étaient données. Mais ici, on est obligé d'acheter la latérite pour réparer une route d'intérêt général. C'est impossible. Et d'ailleurs, je vais adresser un courrier aux autorités provinciales pour qu'elles nous aident, ces autorités, pour que demain, qu'on donne une carrière à l'Office des routes pour avoir les matériaux de rechargement. Parce que c'est pas possible qu'on commence à acheter la terre même pour nous aider à ce qu'on puisse réparer la route. Et les points positifs, c'est qu'il n'y avait plus de route. Il y avait un sentier. Aujourd'hui, on commence à refaire une route large de 7 mètres, alors qu'il y avait des sentiers d'un mètre ou de 50 centimètres. Nous sommes rassurés et les gens de l'Office de route sont déterminés pour qu'on avance avec ces projets et j'ai garanti mon implication personnelle pour qu'on arrive jusqu'à bout du projet.
La province du Maniema n'est pas seulement la route Kindu-Kibombo. Que comptez-vous faire pour les autres routes qui sont impraticables?
Heureusement, je vous ai dit que je ne fais qu'un exemple en tant que fils du pays. Je n'ai pas la possibilité ni la prétention de faire tout dans le Maniema. Pas du tout. Je donne un petit exemple si les autres peuvent emboîter les pas. Et surtout, c'est la responsabilité du gouvernement. Et donc, nous, on va inciter plutôt au gouvernement. On va pousser à ce que le gouvernement, on va faire des plaidoyers pour dire que non, c'est pas possible. Quand j'allais sur la route Kibombo, j'ai vu des fruits qui pourrissent parce qu'il n'y a pas quelqu'un pour les manger. Alors que ces fruits-là, à Lubumbashi par exemple, ça vient de la Zambie et de l'Afrique du Sud. Donc ces fruits peuvent quitter le Maniema pour aller approvisionner les gens du Katanga. Mais vous voyez cette richesse-là. Et ça, ce n'est qu'une partie. Je parle de fruits, mais j'ai vu les champs du riz et les riz qui est en train de pourrir là-bas parce qu'ils ne savent pas acheminer. Et donc, moi, à mon niveau, je ne pourrais faire que quelque chose qui est symbolique. Mais au niveau du gouvernement central, au niveau du gouvernement provincial, il doit faire encore beaucoup d'efforts.
Bien sûr que vous avez palpé du doigt les problèmes de la population du Maniema. Quel serait alors ton appel au gouvernement?
Oui, heureusement, je remercie encore le gouverneur de province qui m'a reçu. On a parlé. Il est conscient de la situation. Et donc, quand on va partir, au niveau central aussi, on va faire passer les messages. Parce que c'est intolérable et on ne peut pas ne pas nous impliquer pour que la situation change.
Merci à vous, M. Salomon Idd Kalonda.
C'était l'invité de Radio Okapi, le conseiller spécial chargé des questions politiques de Moïse Katumbi. Salomon Idd Kalonda a été interviewé à Kindu par Florence Kizalunga. Il est 18h20 à Kinshasa. C'est la fin de cette édition d'information coordonnée par Alain Rougoumouché et Blaise Shindani Kamala sous la supervision éditoriale de Martin Sebujangwe. Retrouvez-le sur www.radiookapi.net.